Rendez-vous avec, une émission proposée et présentée
par Joël François Dumont et Jean-Michel Poulot.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de ce nouveau rendez-vous, bienvenue à nouveau à nos invités, les mêmes que lors de la précédente émission, Général Philippe Carpentier, bonjour.
Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous.
Joël François Dumont, évidemment toujours à Berlin, bonjour à vous.
Bonjour à tous.
Et tout cela pour accueillir celui qui est quand même notre invité d'honneur pour ces deux émissions, c'est Gilbert Aubray. Monsieur Aubray, bonjour et merci d'être à nouveau au rendez-vous.
Bonjour messieurs, rebonjour.
Alors, vous nous avez déjà largement fait rêver dans la première émission. Gilbert Aubray, je vais me permettre de vous poser une première question. Vous nous avez parlé d'aventures fabuleuses avec des hélicos dont on ne connaissait pas encore complètement les possibilités, tout simplement parce que vous êtes un des précurseurs qui nous reste encore, donc votre témoignage est d'autant plus précieux, Gilbert Aubray, mais à une époque où on ne connaissait pas encore les limites des hélicoptères qui n'ont rien à voir avec les machines que l'on connaît aujourd'hui, comme le général Carpentier nous l'a dit aussi, où on était dans de l'aventure polaire plus que de l'expédition. Est-ce que vous me permettez d'utiliser ce terme-là, Gilbert Aubray ?
Oui, bien sûr, mais toutes ces aventures n'empêchent pas le côté scientifique de l'affaire. La science, c'est aussi une aventure, hein, c'est la recherche. Et donc, bien sûr, qu'en ayant vécu avec les participants ou avec les locaux, eh bien, on découvre des choses, quoi. C'est le bon côté de l'hélicoptère. Hein. Toute ma carrière civile et militaire, j'ai trouvé avec l'hélicoptère plein de choses à côté de mon boulot pur et dur et d'hélicoptère. Quoi. Que ce soit les boat people au Vietnam ou des choses comme ça. Quoi. Voilà, on participe.
Voilà. Bon, on va poursuivre. Dans l'émission précédente, tu nous as présenté Paul-Émile Victor, son complice Robert Guillard et beaucoup de choses, et notamment les expéditions au Groenland. Donc maintenant, on va faire un grand bond vers le sud, vers la Terre Adélie, les terres antarctiques et australes françaises, pour ces expéditions polaires qui se sont développées, je dirais, concomitamment avec les expéditions au pôle Nord. Alors, est-ce que tu peux d'abord nous présenter un petit peu les TAF dans leur ensemble, leur domaine géographique et la façon dont ça a été découvert et se sont lancés les EPF au TAF?
Donc, le premier qui atteint le pôle, Le continent antarctique, côté français, c'est Dumont d'Urville, tout simplement, hein, puisqu'il a créé, il a donné le nom de sa femme au territoire qu'il avait découvert, qui s'appelait Adélie, que j'ai pas connu. Hein. Et donc Dumont d'Urville, il y est pas resté longtemps, il a posé le rocher, qui est un peu. Alors, il a découvert la zone côtière, on rentre dans le cercle du pôle sud, quoi. On est juste à la limite, mais on est aussi au pôle magnétique, au pôle sud magnétique. Et donc après, c'est resté comme ça assez longtemps. Il y a eu découverte des pôles par Asmussen et l'autre Scott avec la terrible aventure de Scott qui est parvenu, quoi. Il est décédé là-bas, voilà, et tout ce monde. Et on revient donc à Lyotard et Valette en 48 avec Victor. Victor s'occupe du nord, les deux autres s'occupent du sud, et ils décident de créer une base de recherche en Terre Adélie. Donc avec un bateau de la marine et l'amiral Douguet, ils vont au pôle sud, et après bien des péripéties, la première année, ils ne réussissent pas à joindre, ils réussissent à joindre uniquement la deuxième année, et ils débarquent le matériel à Port-Martin qu'ils avaient choisi. Port-Martin, ils y restent un moment, donc ils avaient des chiens, ils avaient une chenillette ou deux, je crois, et puis c'est tout, quoi. Hein. Et Port-Martin, ils ont fait des recherches, ils étaient une dizaine, hein. Ils ont hiverné là-bas. C'est-à-dire qu'ils ont attendu l'année d'après pour revenir, pour qu'on vienne les rechercher. Quoi. Et Port-Martin a brûlé. Et donc, ils avaient déjà trouvé une autre zone où ils créaient une base, puisqu'il y avait une grosse colonie de manchots à Delhi et de manchots empereurs. Donc, ils sont allés là-bas, ils ont créé une base, la base Marais, du nom du radio qui était là-bas, Mario Marais, et la base Marais était à Point de Géologie, là où est actuellement Dumont-d'Urville. Et Port-Martin a brûlé. Le danger au pôle, le principal danger, c'est le feu, comme sur un bateau. On ne sait pas l'éteindre. Trop tard, il y a beaucoup d'eau, mais c'est de la glace, c'est de la neige. Donc le temps de... On n'a pas le temps. C'est pour ça que les vivres sont dans un coin. Tout est bien séparé les uns des autres. Hein. C'est énormément séparé. Donc, et puis le bateau... Alors, c'est arrivé au mois de janvier. Le bateau était là. Et on a déménagé la plupart des choses vers la pointe géologie, qui est devenue la base du Mont d'Urville. Donc ça, c'est 55. Il y a eu une coupure, là. Bon, le temps de créer la base... Et après est arrivée l'année géophysique internationale de 56-57. Donc là, il a été créé une base fixe à Dumont-d'Urville. Donc le révérend Père Leget, il a créé ça. Il a demandé à ce que ce soit créé. Et il était président du comité de l'année géophysique internationale. Et il y avait... Le vent était un peu mieux à Pointe Géologie, un peu mieux qu'à Port-Martin. Parce qu'il faut savoir que les vents katabatiques qui descendent du pôle et qui, par gravité, ils arrivent à atteindre la côte à des vitesses de 300 km/h. Hein, leur corps. Et donc là c'est terrible. Quoi. Bon, personne ne sort, rien du tout. Et donc, pour l'année géophysique, il a été créé la base de Dumont-d'Urville, prise par l'ETAF. L'ETAF, je crois, l'un des deux, que ce soit Valette ou Lyotard, je ne m'en rappelle plus, ils ont créé un bureau de poste sur Dumont-d'Urville. Et le bureau de poste veut dire que c'est une souveraineté française. C'est comme si c'était une préfecture. Quoi. Il y a un bureau de poste, donc il y a un responsable postal, il y a des choses comme ça, qui peut faire un autre boulot à côté. Hein, mais bon, c'est ça. Et à 300 km des côtes de Dumont-d'Urville, il a été créé une autre base, la base Charcot, des gens... Alors c'était une base qui était enfouie dans la glace, où trois hommes ont hiverné là-dedans, donc Tonton et deux autres, Dubois et je ne m'en rappelle plus le nom de l'autre, qu'ils m'excusent. Et donc, ils ont hiverné là, et ils ont fait des mesures, Et les TAF, les expéditions polaires françaises, ont fait venir l'hélico de l'armée de terre, c'était un bel 47, donc voilà, et qui a fait des liaisons, et ils s'en sont servis aussi pas mal pour faire du déménagement par sling, alors savoir. Mais ils ont voulu aussi, en 58, aller un peu plus loin et emmener des choses au-delà des zones marginales. Et ça faisait des vols de 25-30 minutes, plus de 20 km. Hein. Et là, comment il s'appelle, Berthe, il a eu une perte de référence en 58 et il s'est planté. Donc il s'est planté. Ils ont mis 48 heures pour le retrouver. Il baignait dans le pétrole, dans son carburant et il s'était endormi. Dans les pôles, on meurt très très calmement. Quoi, on s'endort. Alors qu'en région chaude, c'est horrible quoi, de s'endormir. C'est la langue qui s'épaissit dans la bouche et puis tout ça. C'est horrible. Donc voilà.
Alors, ce qu'on peut peut-être préciser, Gilbert, pour nos auditeurs qui n'ont pas forcément un globe terrestre sous les yeux pendant qu'ils nous écoutent, c'est que l'Antarctique est une zone immense, qui n'est pas plate, tout comme le Groenland, mais qui culmine à plus de 4000 mètres d'altitude, et que la zone, la base du mont d'Urville dont tu parles, quand on regarde le globe, en fait, elle pointe vers la Tasmanie, hein, au sud de l'Australie.
Elle est verticale, plein sud de la Tasmanie, à 2700 km de la Tasmanie, d'Hobart.
Voilà. Bon, alors, les Kerguelen font-elles partie des TAF, Gilbert?
Alors, les Kerguelen a été créé cet organisme, les Terres australes et antarctiques françaises, dans lesquelles on retrouvait au départ Kerguelen, Crozet, Saint-Paul. A été ajouté donc Dumont-d'Urville, ont été ajoutés il y a quelques années les Éparses et des îles comme ça. Quoi, hein. Les Éparses aujourd'hui font partie des États.
Oui, les îles Éparses, on peut dire que ce sont les îles dans le canal du Mozambique entre Madagascar et le continent africain, et que c'est un sujet de discorde entre la France et Madagascar.
Donc toutes ces îles, mais que ce soit ici ou l'Océanie ou tout ça, ça aboutit au fait qu'on est la deuxième puissance maritime du monde. Hein. Ça grandit, hein, jusqu'à 200 kilomètres, oui.
Oui, tout à fait. Et ce sont des zones aussi où la pêche illicite est très importante par rapport, par exemple, au Kerguelen. Où la marine, les bateaux de la marine qui sont implantés à La Réunion, c'est une de leurs missions de faire la chasse à la pêche illicite dans une zone qui est immense et avec une mer qui est toujours très agitée, hein, des creux en permanence entre 6 et 10 mètres. Donc quand les équipages ont passé un mois dans cette zone à courir après les pêcheurs illicites, ils rentrent quand même un peu usés.
On peut croiser, c'est très rare, des bateaux japonais aussi qui vont à l'époque où j'étais, hein, à l'époque, donc je parle de 75, 76, 77, où les Japonais venaient chasser la baleine aussi. Hein, on en trouvait, quoi.
On dirait que le pôle Nord est la région la plus froide du monde. En fait, je crois qu'en fait, la région qui est restée la plus froide et qui a le moins de problèmes climatiques que le pôle Nord, c'est le pôle Sud. Il fait très froid au pôle Sud, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être imaginer.
Le pôle, disons que le pôle Sud, Terre Adélie, Dumont-d'Urville, la température varie entre 0 et moins 35 degrés.
Oui.
Mais ceci dit, comme disait Philippe tout à l'heure, le pôle Sud culmine à plus de 3000 mètres d'altitude. Et forcément, si on enlève 6,5 degrés par 1000 mètres, ça fait. Et qui plus est, à ceci s'ajoutent les vents. Quand il y a du vent, on enlève 1 degré par 10 nœuds, je crois, un truc comme ça. Et ça fait vraiment froid. Ça glace, quoi.
Oui, température ressentie.
Sinon, quand il n'y a pas de vent, on travaille en manche, hein, en manche courte. Hein, on peut travailler en manche courte au moment du déchargement du bateau aussi. Ça, j'ai des photos en manche courte, quoi, on vit très bien. Mais comme en montagne, que ce soit en montagne, sur la neige, on peut très bien vivre comme ça. Alors de Terre Adélie à Dumont-d'Urville, donc on franchit les 40 rugissants et les 50 hurlants, là. Et il y a les creux, alors c'est un bateau polaire, hein, qui dit, ce n'est pas un brise-glace, je répète, hein. Le bateau polaire, il a une défense qui est bien renforcée, et il est lesté par des matériaux lourds, puisqu'il n'a pas de quille. Il n'a pas de quille pour pouvoir monter sur la glace et la casser. Alors que le brise-glace, il casse la glace par des ballasts. On ballaste l'eau de l'avant vers l'arrière ou de l'arrière vers l'avant, et donc ça lui fait un effet de scie. Tandis que le bateau polaire, non. Et le bateau polaire, il a toujours le souci, quand il a cassé la glace, de repousser la glace vers l'arrière pour se laisser l'arrière libre. Sinon, la glace va le faire monter, hein, et puis il ne sera pas gouvernable. Et quand on arrive au pôle, quand on arrive vers Dumont-d'Urville, la cartographie, elle n'est pas précise pour les hauts fonds. Et donc, en 76, en décembre 76, on a touché un haut fond et le bateau était ingouvernable. Donc, il y avait une cale qui était percée et il a fallu que, une fois le bateau déchargé, donc aller jusqu'en Terre Adélie quand même pour décharger, parce que les gens de la base avaient besoin de pétrole, de vivres et de ci et ça. Et le bateau, après, quand il est reparti, il est allé en cale sèche à Melbourne pour être réparé. Et là, ça a été difficile parce que donc ce bateau, entre les deux rotations qu'il faisait pour Terre Adélie, il faisait une rotation pour la base australienne. Et là, il n'a pas pu faire cette rotation complètement. On a eu peur et donc la campagne d'été a eu. Alors donc, au pôle sud, en Terre Adélie, il y a l'hivernage qui part donc de décembre à décembre l'année d'après. Le bateau est considéré arrivé quand les citernes de pétrole sont connectées aux citernes de la base. C'est le point d'arrivée. Et donc, les gens descendent du bateau et les autres montent. Alors, c'est banette chaude, hein, ça va vite. Et on décharge le bateau. Ben, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de quoi loger tout le monde d'un côté ou tout le monde de l'autre. Hein. Donc, on fait ça. Et donc, connexion du bateau, arrivée. Et retour, pareil. Et qu'est-ce que je veux dire? Et cette année-là, ben, la campagne avec cette histoire des glaces qu'on n'a pas... où on a mis 31 jours, la campagne d'été a été annulée. Ça veut dire que des gens qui étaient venus travailler pour la campagne d'été est chargée de la réfection, de l'entretien des bâtiments et aussi le RAID glaciologique, bien sûr. Mais sinon, les scientifiques de la base de Dumont-d'Urville, ils ne bougent pas. Et maintenant, le convoi qui part donc vers Concordia, ça c'est autre chose. À l'époque, ça n'existait pas.
Alors, oui, une petite précision, Gilbert, avant que l'on poursuive. On a parlé de l'Australie et tout, de différents pays qui sont présents en Antarctique. Bon, tout ça est régi par le traité de l'Antarctique, hein, qui date de 1961, qui a été renouvelé en 1990 pour 50 ans. Tu peux nous parler un petit peu de ce traité et de ces contraintes pour tous les pays qui ont adhéré?
Alors, le traité de l'Antarctique fait de ce continent un continent ouvert à tout le monde, à la science. Toutes les données scientifiques sont ouvertes, elles peuvent être connues de n'importe qui. Ce traité interdit, il interdit la recherche minéralière et des sous-sols. Il interdit zone militaire, donc il ne peut pas y avoir... Ça fait qu'il peut y avoir... Bon, les gens ne se voient pas pour aller voir à Vostok, ou Mirny, ou McMurdo, ou la base de Kazay pour les Australiens. Personne ne se voit, personne n'y va. C'est donc uniquement des liaisons radio, quoi. Des liaisons radio. Il n'y a pas de liaison aéronautique, rien du tout, quoi. Alors, la base de Kazay, elle est sur le continent. Problème de la base de Kazay, c'est une base australienne. La glace pousse les infrastructures vers la mer, parce que la glace se déplace. Hein, elle est mal implantée, quoi, on va dire. Bon. McMurdo, c'est au bord de la banquise, c'est une grosse plaque de glace, mais c'est une base énorme. Et les C-130 de la Navy sont là-bas, quoi.
Voilà. Bon, et donc la cohabitation, je dirais, scientifique et tout, avec tous ces
alors,
pays.
Alors, l'hivernage, c'est une trentaine de personnes qui restent en hivernage et qui peuvent prolonger leur séjour pour repartir en mars s'il y a besoin de personnel pour les réfections. Ils peuvent se porter volontaires pour pour rester sur place, quoi. Et donc, il y a les scientifiques principalement, donc les scientifiques en Terra d'Élis, c'est la météo, la glaciologie, la topographie, la biologie mer et terre, la ionosphérie, le ciel nocturne, l'astronomie, la sismique, tout ça, le ciel nocturne. Alors, le ciel nocturne, c'est l'étude des aurores boréaux qui voient les Russes et les Français donc en Terra d'Élis communiquent quand il y a des aurores pour savoir. Voilà.
Ok. Et donc cette station franco-italienne qui est à peu près à 700 km
sur Vérin. 1100 km.
Enfin voilà. Donc ça c'est une expédition assez, impressionnante d'emmener du monde et de la logistique jusqu'à cette station. Et qu'est-ce qu'on y fait là-bas?
Ben, c'est pas une glaciologie, météo, météo sismique, hein, topographie. Hein, je pense que c'est. Il y a une dizaine de personnes. Alors, chose impressionnante, à Concordia, j'ai regardé dernièrement là, pour mon information, tout simplement. On retrouve souvent comme chef de station le plombier. Parce que le plombier, ben, c'est un homme clé là-bas, quoi, hein. S'il n'y a pas d'eau, si faire déglacer, là on dessalait l'eau en Terra d'Élis, à Dumont-d'Urville, c'est de l'eau de mer qu'on dessalinise, et l'eau à Concordia, ben, c'est de la glace qu'on transforme en eau, quoi, hein, voilà. Voilà. Moi, quand j'y étais, le problème d'eau à Dumont-d'Urville, c'était un peu ennuyeux, quoi. On avait le droit à une douche par mois. Hein, mais on ne sent pas trop là-bas, quand même.
Oui, il ne fait pas trop chaud, donc ça va.
Et donc, on l'avait. Et le service, alors, le jour de service, on avait le droit à la douche, laver le linge. Il faut savoir que tout le monde fait le service à table, hein. À rôle, quoi. Y compris le Paul-Émile Victor quand il était présent à titre tout le monde, sauf les invités, évidemment. Donc, il y a des invités, ils ne le font pas.
Et ce convoi vers Concordia, ça devait quand même être quelque chose d'assez...
Ah, moi, ça, je n'ai pas connu. D'ailleurs, la base de départ des convois s'appelle aujourd'hui la base Robert Guillard. Ils ont donné ce nom il y a 4-5 ans de Robert Guillard à cette base. Ils partent vers Concordia, ils mettent 3 semaines à peu près pour joindre Concordia. Ils emmènent tout le gros matériel et tout ça. Il y a des relèves qui se font à partir de la base de Terra Nova, la base italienne en Antarctique. Je crois que c'est des Twin Otter, hein. Qui arrive à rejoindre. Mais sinon, Terra d'Élis, ben, il n'y a pas de piste. Hein, la piste qu'on avait essayé de... Enfin, qu'on avait essayé, que les TAF avaient commandé un peu, elle a cassé, quoi. La tempête l'a cassé, quoi. Donc, il faut imaginer les tempêtes qu'il peut y avoir. Hein. Elle était protégée par le glacier de l'Astrolabe, mais quand le glacier s'est cassé, il se casse, ben, et puis... Eh ben, les tempêtes ont brisé la piste.
Oui, effectivement, c'est ce qui rend les choses plus difficiles qu'au Groenland, où les Nord-Atlas pouvaient accéder sans grand problème. En Terra d'Élis, bon, déjà, il n'y avait pas de piste. Et bon, les élongations sont importantes par rapport à la Réunion. Je sais que lorsque j'étais à la Réunion, même les Transalpes, on ne pouvait pas envisager lorsqu'il y avait des courses autour du monde qui passaient très près du cercle polaire d'envoyer un Transalpe pour larguer une chaîne de secours, par exemple, si un bateau se retournait. Et il n'y avait que le C-130 qui pouvait le faire. Mais encore fallait-il qu'il y ait une piste. C'est pour ça que on a essayé pendant 10 ans d'essayer de construire cette piste. Mais bon, finalement, on a abandonné avec tous les problèmes qu'il pouvait y avoir dû aux conditions très inhospitalières sur cette zone. Donc cela complexifie grandement le problème du ravitaillement, de l'accès à cette zone, et en cas de problème, de problème sanitaire ou autre, ça rend les choses nettement plus compliquées.
Ça, les gens au départ, ils sont avertis, et longtemps avant, et puis bien avertis, on travaille. qui ne reviendront pas en cas de décès chez eux, en cas de, il n'y a aucun moyen de retour. Ils sont là-bas. Donc quand il y a un décès, ça arrive, c'est certainement arrivé. Le radio, c'est lui le responsable qui reçoit ses courriers. Donc c'est des courriers radio. Le radio prévient aussitôt, qui fait vague-mestre aussi, il prévient le chef de district et le médecin. Et c'est ce duo, le médecin et le chef de district, qui vont voir la personne concernée pour leur annoncer le décès d'une personne à la maison, quoi. Il prévient aussi le radio quand une personne ne reçoit pas de courrier pendant des semaines et des semaines. Donc il va voir, il dit attention, un tel, ça fait quelques semaines qu'il n'a pas reçu de courrier. Nous avions droit à un téléx par semaine de 15 mots, adresse comprise. Mais bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein, TVB, la santé des pingouins, tout le monde s'en fout, hein. Non, mais je dis, c'est uniquement savoir, quoi. Voilà. Et puis l'épouse, mon épouse par exemple, j'étais pas le seul dans le truc, elle avertit pas quand il lui est arrivé un pépin à la maison. Ça va servir à quoi? À rien, à se faire du mouron là-bas. Et puis au même titre, quand ça lui est arrivé de se faire voler des voitures quand j'étais au Brésil, elle me l'a pas dit. Ça, je pouvais rien faire. Hein. Je pouvais rien faire. Mais donc c'était des choses comme ça. Alors le toubib, il fait aussi partie des TAF, des terres australes et antarctiques françaises. Le toubib, il est recherché parmi les médecins de la marine marchande, et s'il ne trouve pas, et ben c'est quelqu'un du ministère de la Défense qui est choisi. Et le toubib, il est opéré de l'appendicite avant de partir. On lui enlève l'appendicite parce que là-bas, eh ben, il ne pourra pas le faire tout seul, quoi. Hein?
Alors, Gilbert, donc, contrairement au Groenland, où les bateaux pouvaient accoster ou pouvaient décharger leur fret à terre sur un port, enfin, sur des infrastructures, même si elles étaient sommaires, portuaires, en Terra Deli, cela n'était pas possible. Donc, ça a rendu le rôle de l'hélicoptère essentiel pour débarquer le fret, transborder le fret du bateau vers la base de Dumont-d'Urville en transport sous élingue, ce qui est toujours un petit peu compliqué parce que la vitesse de pointe de l'Alouette 2, vitesse normale, c'est 80 nœuds, hein, et bon, il y a régulièrement des vents qui sont supérieurs à cette vitesse. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'emploi d'hélicoptères depuis la phase du début avec les hélicoptères de l'armée de terre et de la LAT, et puis ensuite l'armée de l'air, et puis quelles étaient un petit peu les conditions de travail des mécaniciens pour entretenir ces machines, les dépanner, les mettre en œuvre, c'était compliqué.
Alors, à l'époque de la LAT, les bateaux étaient, les mâts de charge déchargeaient sur des barges, et les barges s'approchaient au plus près ou de la zone la plus dure, ça peut être de la banquise ou ça peut être de la terre, et donc là... Et l'hélicoptère prenait de cette zone pour emmener les charges vers la zone vie, quoi, parce que c'est un rocher, hein, c'est un gros rocher qui fait 4-5 km², quoi, à peine. Et donc la base vie, elle est là-haut, et l'hélicoptère grimpait les charges. Ils avaient aussi créé un mont de charge. Sur rail qui emmenait les charges, donc voilà. Quand on y était, donc le bateau, quand il arrive, il va au plus près de l'île, de façon à connecter les citernes. Quand il faut qu'il connecte les citernes. Et quand les citernes sont connectées, les mâts de charge se mettent en œuvre et déchargent, souvent sur la banquise, et autrement, ben sur la banquise. Il évite de toucher trop, Et donc, l'hélicoptère, Et les véhicules emmènent toutes les charges de cette zone de déchargement du bateau vers les lieux, vers la base, quoi. Alors il y a les vivres, parce qu'il faut pas laisser. Les vivres, elles vont durer un an. On met des vivres pour un an. Donc, il faut éviter de les faire déglacer et regasser. Hein. Elles sont dans le bateau, elles sont sous température en frigo. Quoi, hein. Elles sont en frigo, elles sont bien. Et les vivres frais, les cuisiniers de Terre Adélie, en fait du Mont d'Urville, ils font tout en sorte pour que les vivres frais durent le plus longtemps possible, hein, que les légumes, tout ça, parce que après, ça va manquer. Il n'y a rien pour. Donc, on emmène tout ça, les bouteilles d'hélium pour les ballons. Il y a 400 bouteilles d'hélium, puisque c'est une par jour plus 10%. Et tout ça, on grimpe tout ça. Donc, c'est 60% de l'activité d'hélicoptère, le déchargement et donc le rechargement. Après, qu'est-ce qu'on a comme vol ? Vol pour le CEA, donc pour faire des pompages aux ordres du CEA. Ou donc la photogrammétrie, donc on photographie à 4000 mètres d'altitude l'évolution de l'astrolabe, on photographie les rochers aux alentours et du Mont d'Urville, bien sûr, l'île des pétrels, puisque c'est celle-ci sur laquelle est la base du Mont d'Urville, pour voir où on peut implanter des choses. Et bon, pour Gloriole, j'avais créé un support assez performant puisqu'il empêchait le problème de l'hélicoptère, c'est que ça vibre. Alors c'est pas marrant et donc les photos étaient difficilement exploitables. Et puis avec le support que j'avais créé, on avait amorti les vibrations et donc les photos ont été exploitées. On a reçu une félicitation des expéditions polaires françaises pour la qualité des photos qu'on avait réussi à tirer. C'était un appareil photo spécial, hein, qu'on mettait dans la trappe arrière, derrière le siège passager. Tu vois, Philippe ?
Oui, tout à fait. Voilà. Et ouais. Donc, par ce temps-là, le travail quotidien des mécaniciens mettre la machine en œuvre, la réparer dehors avec les mains gelées, tout ça. Comment ça se passait ? Ça devait quand même pas être simple.
On fait ça. Hier, ils avaient créé les vents qui arrivent à 300 km/h sur du Mont d'Urville, les pingouins volent. Hein. C'est ceux qui ne sont pas entendus. Ah oui. S'il y en a un qui n'a pas le temps de se mettre dans la tortue, de regrouper les uns, on appelle ça, il les vole. Les tôles, ça vole, il faut que rien. Donc, il avait été créé un mur par vent et derrière lequel on mettait l'hélicoptère. Et par vent, forcément, les pales sont enlevées et puis on met tout là. Et il arrive que la neige s'entasse derrière le mur par vent et puis l'hélicoptère est sous la neige. Quoi. Mais bon, ça c'est rien. C'est pas grave. Et quant à travailler, faut pas se plaindre. Il y a pire. Hein. On travaille les mains nues. C'est sûr que pour souder avec les gants, ça va pas bien. Quoi.
Oui, même pour tenir un tournevis de précision avec les gants, ça ne doit pas être...
Non, il n'y a aucun problème même. Non, il n'y a aucun problème.
Et la résistance au froid de la machine, je ne sais pas, je pense aux amortisseurs.
Les premiers Bell, ils avaient des difficultés parce que c'était un moteur thermique, donc un moteur à piston. Et là, pour le démarrer, il fallait chauffer l'huile, il fallait... C'est-à-dire qu'à partir du moment où les belles ont été remplacées par des jeans, qui c'est une turbine, il y avait beaucoup moins de difficultés à démarrer l'appareil. Et la Louette 2, c'est une turbine aussi, donc aucun problème. Non, il y a le froid ne fait aucun problème. Des problèmes normaux de la vie de tous les jours. Voilà, c'est sûr qu'il fallait... en cas de panne, bien sûr, là, on peut, en cas de gros problème, on ne peut pas se retourner vers l'entrepôt le plus près, hein, parce que là, il n'y en a pas. Donc, il faut se débrouiller. Et les clients, donc en l'occurrence les expéditions polaires françaises, mais ça, c'est vrai aussi pour le pétrole, il loue un hélicoptère disponible.
Oui.
Donc, ce qui fait que souvent dans ces missions, et pétrolière aussi, les clients, ils chouchoutent les mécanos. Hein, c'est un peu le chef de mission. Les Américains, c'est le chef de mission qui est mécano sur l'hélicoptère. Ce n'est pas le pilote. Le pilote, tout le monde peut le faire.
Oui, il faut bien dimensionner le lot.
Non, ce n'est pas des blagues. Hein, c'est une réalité parce que la disponibilité, le réapprovisionnement des choses, des ci, des ça, il faut que ce soit bien fait. Quoi.
Oui, et puis le dimensionnement du lot de fonctionnement au départ, c'est-à-dire toutes les pièces détachées, toutes les pièces susceptibles de tomber en panne, qu'il faut en stock, c'est le mécano qui prévoit ça. Oui. Donc au gré de l'expérience des missions et de ce qui peut tomber en panne, on l'affine, mais au départ, effectivement, intuiter sur les pièces qui risquent de tomber en panne et tout, ça n'est pas évident.
Et ce lot, comme l'appareil, est loué au client aussi. Hein. Oui. Ça s'appelle un backup. Et le client paye, s'il veut un backup avec deux moteurs, trois boîtes principales, il a le droit, mais il paye.
Bien sûr. Voilà. Donc, alors, si on peut résumer un petit peu, les bilans d'abord de l'armée de la LAT et puis de l'armée de l'air pour ces missions, c'est quand même un beau bilan avec plusieurs milliers d'heures de vol, des tonnes de fret transportées quoi, depuis le début jusqu'à la clôture de la participation de l'Alouette 2 à ses missions.
Oui, bien sûr. C'est après le coût était trop élevé pour les expéditions polaires françaises et pour les TAF, donc que ce soit même pour Kerguelen. Hein. Kerguelen, les TAF Kerguelen ont préféré louer un hélicoptère de la Réunion pour faire les missions. Et Terra Deli, donc il y a deux. En fait, le bateau, il arrive en octobre maintenant, et c'est deux hélicoptères australiens qui descendent le personnel vers la base Robert Guillard pour mettre en œuvre le convoi, pour déglacer les véhicules, parce que les véhicules sont sur le continent, on ne les voit plus. Quand on revient, ils sont sous la glace. Hein. Donc il y a des une pelleteuse qui est là pour défaire les véhicules sous la glace, les sortir, les mettre en route. La batterie, elle tient. Hein. Les batteries, on les débranche juste, ils les rebranchent, et le véhicule repart. Hein. C'est impressionnant. Par contre, il faut les déglacer, hein, c'est certain. Et donc, les gens, ils arrivent fin octobre là-bas, et ils sont mis en place par hélicoptère. Le bateau, il arrive à 100-150 km du Mont-Durville, et quand il touche la glace, ils descendent le personnel, et puis et les gars, c'est comme ça qu'il y a eu un accident. Quoi. Alors, tonton, il était en colère, c'est pour ça. Dès qu'il voyait un gars jouer un peu avec l'hélicoptère, un pilote ou ça, oh là 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 là, là et l'autre il entendait parler, et là une mission, il y a eu les deux hélicoptères, il y en a un qui est parti, l'autre est parti une heure après, et il y a eu un phénomène, il s'est fait peur, et il a voulu voler au ras des kékés, il a percuté hein, au ras des kékés, très bas, et il a percuté un iceberg, et donc il y a eu 4 morts. Quoi. Là, ça ne pardonne pas. Hein.
Ça pardonne pas. Aubry, du point de vue population, tout à l'heure, je vous entendais parler, mais je comparais, je vous disais hier, la population au pôle Nord, c'était donc des Inuits, des gens groenlandais donc, qui parlent normalement danois, qui comprennent l'anglais. Hein, et vous comprenez accessoirement l'Inuit, le danois, et voilà. Les langues locales, mais qu'est-ce que vous avez comme population en Terra Deli ? Il y a quoi ? Il y a des scientifiques là-bas ?
Alors, Terra Deli, le continent antarctique, il n'y a personne, aucun humain. Il y a uniquement des phoques, des manchots, Adélie et tout ça, des manchots empereurs, des phoques léopards, des phoques, des orques, il n'y a rien, il n'y a aucune population, aucune. Puisque le continent le plus près, donc, ça doit être le Chili, le point d'Amérique du Sud, qui n'est pas loin du continent antarctique, quoi, puisque cette pointe du continent antarctique, elle n'est pas glacée. Elle n'est pas glacée. Mais autrement, il n'y a aucune population. Alors que le pôle Nord, le pôle Nord est entouré de populations, que ce soit en Alaska, entouré de populations. Ce n'est pas énorme, hein, ils ne sont pas nombreux, mais si on parle de l'Alaska, après le Canada, le Nunavut, il y a un peu de monde, le Groenland, il y a un peu de monde, et puis on continue les Lapons et les Sibériens, quoi, les Kamouks et tout ça, quoi. Voilà, et qui ne parlent pas la même langue. Alors donc, cette population du Groenland serait venue, ce qu'ils appellent, ils appellent toujours ça la Grande Marche, ils seraient venus de Mongolie, par le nord du Canada, le nord de l'Alaska, le nord du Canada, et rejoint le Groenland. Et donc, une autre branche est descendue, ce qui forme la population amérindienne. Ça, c'est Dixit les ethnologues, hein, c'est pas Dixit moi, j'ai pas. Alors les Esquimaux d'ailleurs, les Inuits, hein, on leur retrouve la tache mongole dans le dos. Hein?
Oui.
Donc voilà, c'est pour ça que les... Alors c'est impressionnant, il y a un gros... Nous il y avait 600 enfants, hein, je parle du Groenland, parce que c'est vrai que c'est le plus intéressant de vivre avec les gens, les scientifiques, bon c'est là, c'est... Mais leur problème, c'est comme on retrouve le même problème en Océanie, c'est la consanguinité. Ils meurent de consanguinité, ils sont très fragiles, et la tuberculose aussi à l'époque, le froid.
Alors, je reviens un peu sur le bilan que tu présentes dans ton livre, Gilbert, c'est quand même, il est impressionnant et il mérite largement d'être cité. Hein, donc, entre 56 et 63, la LAT a effectué environ 650 heures de vol en Terre Adélie et transporté un peu plus de 1000 tonnes de fret. Et les Alouettes 2, entre 63 et 95, ont fait à peu près 3500 heures de vol et transporté à peu près 10 000 tonnes de fret. Donc, ces bilans sont quand même impressionnants, quoi. Ça veut dire que la disponibilité était bonne et que les équipages ont bien travaillé et fait beaucoup de transports sous élingue.
Oui, bah bien sûr, c'était le rôle aussi. Hein. C'est pas... Voilà, c'est que quand on descend du bois, on est là pour descendre du bois. Enfin, voilà.
Oui, et effectivement, les équipages, avant de partir, faisaient un stage particulier au centre d'instruction des équipages d'hélicoptères, là, à Chambéry, puis à Toulouse, pour s'entraîner à transporter des charges de toute forme, de tout encombrement, donc avec des résistances différentes au vent et tout, sous une élingue assez longue, parce que ce n'est quand même pas, le travail principal des hélicoptères militaires, de faire du travail sous élingue, pour arriver sur place avec une technicité qui permettait de faire face à toutes les demandes.
L'armée a été présente, travail sous élingue, notamment pendant les Jeux Olympiques de Grenoble, pour les construire. Le Chambéry, ils ont beaucoup travaillé sur les... Donc c'était les Jeux Olympiques de Grenoble, c'est 68, si je ne me trompe. Chose comme
oui.
ça.
Tout à fait.
Au Groenland, oui.
Ouais, donc l'armée de l'air a été beaucoup, beaucoup utilisée pour les H-34 de Chambéry pour construire les villages olympiques et tout ça.
Monsieur Aubry, dans votre livre, vous parlez des motivations et vous dites que vous avez interrogé Paul-Émile Victor sur les motivations qui pourraient entraîner des volontaires à travailler ainsi sans famille dans des contrées aussi froides et isolées. Et vous avez répondu « toutes les motivations sont bonnes du moment que le travail est fait ». Est-ce que c'est le travail qui vous réunissait ? C'était quoi ?
Non, c'était chacun a ses motivations, il y en a, c'est l'argent. Donc, avec Victor, j'étais assez libre avec lui, et puisqu'il est venu, je l'ai logé, je l'ai abrité ici sous mon toit, et il couchait partout, hein, Victor, il n'avait pas honte. Et je cherchais, je lui disais, mais pour embaucher du personnel, parce que c'est un problème, hein, on ne trouve pas autant de personnel ouais. qu'on veut, il y a toujours une... comment je veux dire, embaucher du personnel, Si on voit les sites des TAF, ils recherchent du personnel sans arrêt, notamment des plombiers, donc beaucoup c'est des compagnons, des anciens, donc il y a une bonne filière là. Mais sur le bateau, je lui avais demandé, Paul-Émile, d'après toi, qu'est-ce que c'est la motivation des gens? Il me dit, moi, j'aurais rien à faire, du moment que le boulot est fait, c'est bon. Voilà. Donc, motivation, ça peut être la découverte, l'argent, ça peut être, de s'acheter une maison en retour, de ci, de ça. Hein. Il n'y a pas une motivation particulière, je pense.
Oui. Messieurs, pour l'hivernage, les gens étaient partis à peu près 14 mois, hein, c'est ça?
Entre ceux qui voulaient repartir à la première arrivée du bateau, ils repartaient. Mais et d'autres qui voulaient faire un peu d'argent en 3 mois, donc ils restaient jusqu'au deuxième départ, selon les possibilités d'emport du bateau aussi, bien sûr. Hein. Ouais. Voilà, ils étaient utilisés parce que les campagnes d'été sont là uniquement pour l'entretien et les réfections des bâtiments, quoi, et l'ajout, la plomberie, de choses comme ça, quoi. Et la glaciologie, mais ça c'est sur le continent, c'est les raids. C'est les raids.
Alors, vas-y Jean, Joël François.
Quand on a vécu des aventures pareilles, monsieur Aubry, et qu'on revient au pays, hein, on retrouve la mort de plaine, non?
Alors ça, nous en avions parlé là, en aparté là, quand vous m'aviez téléphoné. C'est certain que je me racontais des fois, et puis il m'est arrivé des aventures, notamment les boat people ou des choses comme ça, où j'ai raconté, on m'a un peu pris pour un affabulateur. Alors là, j'ai cessé toute conversation avec les gens qui n'avaient pas vécu ce genre de d'aventure. Et donc, pour les boat people, un jour, dans un restaurant, il y a un cuisinier qui est venu vers moi. J'avais besoin de me faire un plat spécial pour faire connaître à mon épouse, un plat vietnamien. Et puis il a levé très timidement la tête vers moi, il m'a dit « mais je vous connais ». « Ah bon ?» Et d'où ça, vous étiez à Vung Tau ? J'ai dit « oui, en telle année, oui, je vous ai parlé ». Et je suis désolé, mais je suis très ému, c'est devenu un ami très proche, qui est décédé malheureusement, je me suis occupé de ses filles, ses enfants, et ce monsieur, il nous demandait, en passant, en courant, l'état de la mer, pour savoir s'il pouvait partir ou pas. Parce qu'il faut voir les barques dans lesquelles il partait. C'était pas heureux. Pour rejoindre la Malaisie, je ne veux pas en parler parce que je veux aller trop loin, je n'aime pas évoquer ces souvenirs. Donc j'aime pas trop évoquer avec des gens qui connaissent pas et on est pris pour des affabulateurs ou ils ont vu à la télé mieux ou tant mieux. Ou quand je parle de comme des Indiens en Amazonie, quand je dis qu'ils s'enlèvent les femmes les uns les enfin entre clans, je suis un affabulateur et l'Amazonie ça se résume pas au cacique Raoni, hein, qui est très respectable, mais c'est immense comme territoire et les populations ne se connaissent pas du tout, ils parlent même pas le même langage.
J'ose pas vous demander si vous regardez les émissions aussi intellectuelles que Koh-Lanta.
Pas beaucoup. Non. Non. C'est vrai que je regarde beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Hein. Il faut. Alors le un des problèmes dans ces contrées, mais ailleurs aussi, pétrole aussi, hein, quand saison des pluies en Sierra Leone ou en Amazonie, bon, qu'est-ce qu'on fait le soir? Il n'y a pas des boîtes partout, hein. Donc, on lit. Ça fait qu'on découvre des choses. Quoi. La lecture, c'est un excellent truc. Voilà. Où on parle avec les gens, on découvre les langues aussi. On parle. Quand on est seul, on est seul. Hein.
Oui. tu nous as évoqué, là, quand on préparait l'émission, les aventures des C-130 américains là, qui allaient se poser vers l'intérieur de Terra Deli, là, dans des conditions quand même assez acrobatiques et qui ont cassé quand même pas mal de machines sur place.
Ouais. Oui, j'ai un jour, je polycoperai la revue et dans laquelle j'ai des amis qui sont allés pour aider les Américains à déglacer trois C-130 pour les ressortir et les remettre en vol avec l'aide de Lockheed, bien sûr, et de la Navy américaine. Et puis ils ont revolé, ils les ont re-emmenés en vol, enfin, à McMurdo, quoi. Voilà. Parce que ça arrivait qu'ils aident les expéditions polaires françaises pour des choses comme ça, quoi. Mais au centre du Groenland. Ouais. Ils damaient des pistes, et puis les autres prenaient ou ne prenaient pas la piste, voilà. Avec les incidences que ça peut avoir. Ça peut
se passer. Alors, avant que l'on se quitte là, je voudrais prendre la parole deux secondes pour rendre hommage à un Pyrénéen, alors Christian Palassin, surnommé Tonton aussi. Alors, il est de Saint-Gaudens. Alors, je sais que les Béarnais considèrent que Saint-Gaudens, c'est dans les Pyrénées-Orientales. Mais néanmoins, il était un ancien pilote militaire qui était ensuite pilote civil à La Réunion. Et je pense qu'il est le recordman toute catégorie des missions effectuées au Kerguelen. Il a fait 12 missions au Kerguelen et une mission en Terra Deli. Je pense qu'il n'y a pas un seul
pilote. Palassin ? Ah oui, après, oui.
Palassin, Christian Palassin. Oui, plus tard, nettement plus tard que toi, Gilbert, plutôt dans les années 80, de 95 à 2005. Voilà, 13 missions dans les TAF au total, parce qu'en fait, même à La Réunion où les gens tourne un petit peu autour de l'île. Les gens n'étaient pas trop fans à faire ces missions, et donc 13 missions, ce qui est un record pour lequel, notamment, outre sa carrière aéronautique, il a obtenu la médaille de l'aéronautique. Donc Christian Palassin de Saint-Gaudens. Et puis un dernier point aussi que je voudrais souligner, au travers d'André, la femme de Gilbert, hein, je pense que elle mérite la médaille d'honneur du mérite conjugal avec de nombreuses agrafes vermeilles, car tu l'as souvent abandonnée à la maison, Gilbert, mais c'est à travers elle, hein, c'est pour rendre hommage à toutes les femmes de militaires, y compris les femmes des pilotes d'hélicoptères qui travaillent dans les compagnies civiles comme Illignon ou autres, qui sont parties aller 2 mois, tous les 4 mois dans des endroits, effectivement, où les plateformes pétrolières, ou au milieu de la forêt amazonienne, ou au milieu du désert, où on a du mal à emmener un chameau, et qui, voilà, sont chefs de famille, qui traitent, prennent en compte tous les problèmes, pour les militaires qui craignent, comme en ce moment au Sahel, pour, voilà, la sécurité de leur mari et tout, avec toutes les angoisses que cela peut générer, notamment après l'accident qu'il y a eu récemment au Sahel. Donc je crois qu'on peut leur rendre hommage aussi, parce que la base arrière est bien tenue et elles assument beaucoup. Bon, je crois que un dernier point, oui, allez, pour le plaisir de nos auditeurs, tu peux peut-être, Gilbert, nous parler de tes aventures en RCA pour le sacre de Bokassa.
Ah, oui. Disons que nous étions en mission, la mission de à Libreville, en septembre noir, là, donc on mettait un hélico au service de l'ambassadeur en cas de problème septembre noir, que ce soit à Abidjan ou à Libreville, donc pour l'évacuer s'il y avait des problèmes. Et en décembre 77, donc on a été contacté, enfin le chef de mission nous dit, bon, c'était Bobos, Debros, il y a un transal qui va venir nous chercher, on va aller à Bangui pour le sacre de Bokassa. Donc nous étions 6 personnes, 3 pilotes, 5, 3 pilotes et 2 mécanos. Nous voilà dans le transal, on est allé à Bangui. Et nous étions sous les ordres du commissaire Van Locke. C'était lui le donneur d'ordre qui était responsable des VIP à l'Élysée à l'époque. Et donc, l'hélicoptère était chargé d'emmener un de ses assistants pour surveiller la foule pendant qu'ils étaient, enfin, ils étaient 7-8, je ne m'en rappelle plus. Les autres étaient dans la foule habillés et puis ils regardaient les mouvements de foule, les dangers, si le cas échéant, quoi. Et donc, ça a commencé. Bobos, qui était au GLAM à l'époque, il me dit, mais je les connais, c'est des journalistes. Il y en a un qui a relevé sa veste en guise d'appareil photo. Il avait un drôle d'appareil photo dans le dos. Voilà, on fait le truc. Et le soir, on ne savait pas où aller. Alors, c'était bien. Ils avaient mis une voiture pour deux à disposition, le gouvernement de Bokassa. Ils avaient mis des belles chambres, des frigos et tout. C'était bien. Et le soir, on ne savait pas où aller. Donc, on va à l'hôtel sur les bords de Lubangui, là-bas. Et puis, alors, il y a plein de monde. Et on s'assied, on va en boîte, il n'y avait que des militaires, il y avait beaucoup de... Et il y avait deux dames qui étaient auprès de nous. Par politesse, je demande à celle qui était la plus près si elle voulait danser. Comme elle avait du goût, elle a dit oui. Et nous voilà danser. C'était une réunionnaise qui avait fait ses études à Bordeaux. Ah ben tiens, voilà, ça fait des contacts. Alors, comme j'avais travaillé avec du pavillon qui était réunionnais aussi, Jean-Marc m'avait appris quelques mots de réunionnais, Miamaoum ici, pas grand-chose, quoi. Alors, voilà. Et puis, et le fait est que on sympathise, et puis elle me demande à la fin, avant de la quitter, elle me dit, est-ce que vous êtes invité de m'asseoir au dîner du couronnement, parce qu'elle ne savait pas qui j'étais, on n'allait pas dire qu'on était ci, qu'on était ça, rien dit, pas besoin de savoir. Et donc, je lui dis, non, il me dit, vous avez un costume, mon épouse m'avait mis un costume, croyant voir les gens, Jean-Michel doit connaître, comment il s'appelle, Roumégou, pas Roumégou, de Cercastets, là, les... Oh, c'est que Conforama maintenant, ça fait partie de cet ensemble Conforama qui fabriquait des meubles à Libreville, donc pour Libreville. Donc si tu les vois, tu vas voir l'usine. Bon, elle me met un costume. Elle n'était pas trop au fait des choses, mais bon. Et ça fait que j'avais un costume. Et un costume en Afrique, ça sert pas trop. Si j'en ai remis pour aller voir Bongo, mais après. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc je dis oui. Donc, rendez-vous est pris à l'hôtel le lendemain soir à telle heure, et puis j'y vais, et entre-temps, le lendemain, Bokassa nous avait remis de l'argent à son effigie. Donc, on avait de l'argent. Qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? On ne sait rien. Alors, je vais le soir habillé en costume, je prends une voiture, je vais en costume à la poste, et on décide d'acheter des timbres premier jour de l'empereur. Donc je vais avec la secrétaire de l'ambassade de France au Gabon, Annie, et puis le chauffeur, et puis j'entends crier devant moi, qu'est-ce que veut son excellence? Je me retourne pour laisser passer un prompt derrière moi. En fait, l'homme m'avait reconnu, c'était pour moi. Donc j'ai dit, je viens chercher des timbres, il m'a fait passer devant tout le monde, les Blancs, les Africains, derrière le comptoir, j'ai pris des timbres. Idiot et puis un peu léger. Les timbres, je ne les ai pas fait envelopper. Ça fait que j'ai passé toute la soirée avec les timbres dans la poche. Ils se sont aimés, beaucoup se sont collés. on est allé, j'ai retrouvé la dame, et ça, avec son ami qui était Drain, où je suis né, donc voilà. On est allé au repas de. Et j'étais à la table, à la troisième table d'honneur du repas du couronnement. Devant moi, il y avait deux ambassadeurs en costume, et à gauche et à droite, il y avait des ministres de Bokassa. Je me suis mis entre les deux dames, je n'ai bu que du champagne, je n'ai pas fait de mélange pour ne pas attraper une cuite et raconter des bêtises. Donc, et puis j'ai adressé la parole à personne. Et puis voilà comment j'ai assisté au repas. Donc, et Von Locke nous avait remis, alors que je n'avais pas au repas, une étiquette, un badge presse. Ça fait qu'avec des brosses, il nous avait remis à tous les deux, et on a pu faire des films, on a pu filmer ce qu'on voulait, où on voulait, dans le palais du couronnement, pendant les défilés militaires, pour ça, on s'est bien amusé tous les deux. Voilà, et voilà. Voilà le couronnement. Et il y a un monsieur, à un moment, qui est venu me taper sur l'épaule, un Africain, grand, noir, très fin, donc pas trop local, qui m'a demandé s'il pouvait me parler en aparté. Ben, j'ai dit oui. Et il a vu que j'avais une voiture et il m'a dit qu'il venait de crever et s'il pouvait m'emprunter ma voiture. Non, qu'est-ce que je fais ? Et donc c'était le petit-fils d'Ali Selassie, le Négus. Ouais. Je ne savais pas, il m'a dit qu'il s'appelait David, je ne sais pas quoi. Et après, pour me remercier, il nous a invités à l'hôtel, mais lui, il marquait payer, il faisait des bons pour. Il payait à boire, bons pour. Et bon, voilà. Voilà l'aventure, mais ça a été un moment assez agréable, quoi. Mais il a fallu danser devant l'empereur, hein. Bien sûr. Pas d'autre chose. Voilà, Philippe, l'aventure, ça a été le couronnement de ma carrière, puisque j'ai quitté peu après l'armée de l'air. C'était...
Eh bien, vous avez eu un rare privilège de danser devant un empereur. Ça n'est pas donné non plus à n'importe qui.
Non.
Bah, vous aviez quand même vu des danses de l'empereur quand vous étiez en Terra Deli.
Des empereurs.
Qui étaient un peu manchots.
On les entend. Ouais. Alors les manchots, les Adélis arrivent en mars. Les Adélis arrivent en décembre et repartent en mars. Et les empereurs arrivent à peu près en mars et ils repartent en décembre. Et c'est impressionnant. Donc c'est la femelle, elle fait son œuf et c'est le mâle qui couve l'œuf. Et la femelle, dès qu'elle a pondu, elle va chercher à manger. Donc ça fait des kilomètres parce qu'il y a la banquise là. Elle va chercher à manger, elle revient, elle régurgite pour donner à manger au mâle, et donc elle prend en charge l'œuf. Et puis c'est le mâle qui va chasser, qui va pêcher. C'est impressionnant ces animaux. Ils ne sont pas sauvages, alors que l'Adélie, il est plus virulent, on va dire. Mais il faut pas les biologistes, ils nous demandent de pas les... d'essayer de les apprivoiser, parce qu'après, on les empêche de chasser. Ils ne savent plus chasser.
Et la Terre Adélie, c'est quand même moins dangereux que le Groenland, parce que le Groenland, il y a des ours, non ?
Oh, il y a des ours. Où j'étais, non, il n'y avait pas d'ours. Il y a des phoques, oui. Par contre, en Terre Adélie, il y a les phoques léopards.
Ah.
Oh, là, c'est... Ou les orques. Et le phoque léopard attaque les orques. C'est impressionnant, ça. C'est impressionnant. Il n'y a jamais eu d'accident. On a parlé avec Robert Guillard, il n'a jamais entendu parler d'accident de phoque léopard. Il n'a jamais vu de. Non, parce qu'il les a fait toutes les compagnies. Une fois, quelqu'un a entendu une mâchoire se refermer derrière lui, mais bon, c'est tout, quoi. Par contre, la banquise est grise, alors les gens. Il y a un mécanicien de l'armée de l'air qu'on a fait la triste expérience. Quand la banquise est grise, ça ne se voit pas du sol. Ça, en l'air, on le voit. Et on avance et plouf, elle casse. Ou elle devient poreuse. Et là, on tombe au bouillon. Et il y a un mécanicien de chez nous, de l'armée de l'air, qui a fait la triste expérience, qui est passé à travers. Et c'était des biologistes ou des gens qui étaient pas loin, qui se sont couchés et qui l'ont rattrapé par la bretelle de son appareil photo. Pour pas jouer le... Alors ça aussi, les gens, ils sont un peu... Il y a eu des cris un peu, parce que les gens un peu inconscients, ils vont un peu visiter n'importe où. Et Robert Guillard nous demandait de ne jamais se promener tout seul, parce qu'avec le cri, il y a 32 000 manchots à Delhi, donc quelqu'un qui tombe plus le vent, on n'entend rien, on ne sait plus où il est. Même sur le même sur l'île des pétrels, hein, ne serait-ce que sur l'île des pétrels. Donc ça fait que la personne, si on ne le retrouve pas avant la nuit, peut mourir de froid. Quoi. Et c'est tout. Et promener sur la banquise, c'est gentil, mais si la banquise cède, qui c'est qui va ramener s'il est tout seul, quoi. Alors, des fois, il y a la police à faire. Bon, ça plaît, ça déplaît, mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est logique.
Que d'aventures.
Bah oui.
Que de belles aventures. Hein.
Ouais, bon.
Ah, on pourrait vous écouter encore pendant des heures. Je suis sûr que vous auriez encore beaucoup de choses à nous raconter, Gilbert Aubry. Malheureusement, nous arrivons au terme de cette seconde émission. Dernière pour cette série de deux émissions, mais nous vous retrouverons avec plaisir dès que vous en aurez le désir, Gilbert Aubry, tout simplement. Je crois qu'il n'est pas possible de dire autrement. Alors, Gilbert Aubry, merci et puis bravo pour cette magnifique carrière quand même qui vous a fait voyager, pas sous toutes les latitudes peut-être, mais sous de nombreuses latitudes, avec la possibilité de nous parler encore d'énormément de choses comme nous l'avons entendu. Merci à vous, Général Carpentier, qui avait été un intervieweur de très grand talent, parce que tout simplement, vous connaissez très bien Gilbert Aubry. Et ses faits d'armes, non, sa carrière, puisque c'était une carrière civile que nous avons évoquée aujourd'hui et hier dans l'émission précédente. Et merci, Joël François, qui a permis que tous ces contacts soient établis.
Merci à tous d'avoir fait rêver, surtout, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas souvent l'occasion de rêver, et surtout de voir que des gens se consacrent à l'aventure, se consacrer à l'intérêt national, à la recherche. Quand on voit la médiocrité de notre monde, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Hein, j'ai regardé il y a quelques jours les magnifiques émissions de Stéphane Bern hein, sur Secret d'Histoire, sur De Gaulle et Churchill. Mon Dieu, il y a quand même eu des grands hommes dans ce pays. Et aujourd'hui, on tombe bien bas. Hein. Voilà.
Voilà, et merci à Gilbert pour ce devoir de mémoire qu'il a fait en écrivant ce livre qui rend hommage à tous ceux qui ont participé à cette aventure.
Merci à tous.
Merci, messieurs.
Je vous souhaite une bonne continuité, peut-être à se voir du côté de l'Escar ou à Monin. Voilà.
Eh bien, pourquoi pas.
Eh bien, rendez-vous est pris.
Hein voilà. Merci en tout cas et à tous, à très bientôt. Et à nos auditrices et auditeurs, grand merci d'avoir suivi, nous n'en doutons pas avec passion, ces deux émissions.
Rendez-vous avec une émission proposée et présentée
par Joël François Dumont et Jean-Michel Poulot.